Bonjour à tous et à toutes. Je voudrais vous parler un peu de la notion de compétence de communication en didactique de langue. Et c'est un conseil très important parce que c'est la manière dont on comprend le développement de cette compétence. Comment est-ce qu'on va travailler en classe et aider les étudiants à faire des progrès dans les quatre compétences. Alors, pourquoi la notion de compétence de communication est-elle centrale dans l'apprentissage d'une langue, dans l'enseignement-apprentissage d'une langue? Tout d'abord, parce qu'elle permet de mieux comprendre quelle est la conception d'enseignement et apprentissage de l'enseignant. Donc, à la manière dont on fait le plan de nos cours, comment est-ce qu'on intègre les compétences, quelle est la partie de parole qu'on laisse aux étudiants. Donc tout cela doit être en cohérence par rapport à un programme d'enseignement-apprentissage de langue. Et donc on peut évaluer, on peut identifier ces aspects à partir de la manière dont l'enseignant conduit sa classe. Alors, elle permet aussi de définir les objectifs d'apprentissage, tout en s'appuyant sur la notion de besoin d'apprentissage. Comme on a déjà vu dans l'approche communicative, cette notion est centrale. Si un étudiant me cherche pour apprendre à lire en français, texte académique, comme on avait autrefois, les fameux cours de français instrumental ou pratique de lecture en langue étrangère, là, on voit que le besoin de l'apprenant est très précis. Aujourd'hui, évidemment, on peut intégrer des compétences autres à celles principales de la compréhension écrite parce qu'on est tout le temps intégré sur Internet, on peut faire des cours de sensibilisation d'une thématique à partir d'un document oral pour préparer la lecture. Enfin, il y a plusieurs possibilités, mais ce qui est important, c'est de apprendre à identifier quel type de besoin d'apprentissage l'élève, l'étudiant, il manifeste. Alors, évidemment, tout ce travail nous permet de mieux choisir les modalités de cours et dynamiques de classe. Quand on prépare la classe, on peut avoir un document déclencheur, proposer des activités en sous-groupe ou présenter des notions théoriques, faire exploiter une image. Enfin, il y a plusieurs possibilités d'organiser la classe. Et ces modalités des cours, elles sont très accrochées à cette conception d'enseignement. Si on veut développer la compétence de communication, cette compétence de communication, elle va se manifester, elle va se développer dans les cadres de la classe, de nos classes de langue. Alors, il y a aussi un autre aspect qui est important, qui c'est préparer l'apprenant à développer son autonomie. Qu'est-ce que ça veut dire? En termes d'apprentissage de langue, on n'a pas été très habitué à faire des auto-évaluations, à identifier quels sont les points plus faibles, etc. Quand j'ai commencé à apprendre le français, l'anglais, etc., je me demandais si je me sentais plus à l'aise en écoutant et plus timide dans la production orale et pour les autres écrites, la même chose. Donc, on aide l'apprenant à s'auto-évaluer, à développer cette autonomie pour identifier quels sont ses progrès et ses difficultés par rapport aux quatre compétences. Et ça nous permet aussi de mieux évaluer toutes les quatre à partir des activités qu'on propose. Cette prise de conscience de la part de l'étudiant par rapport aux quatre compétences est quelque chose qui doit être priorisé, donc doit être travaillé davantage dans la classe. Surtout parce qu'on travaille toujours avec des groupes hétérogènes. Et le profil linguistique, cognitif de chaque étudiant est différent. Alors, cette conscience de « je me sens plus à l'aise en lecture, c'est trop difficile de parler », cette identification, elle aide un peu cette auto-évaluation qui est très importante. Alors, un peu d'histoire du conseil de compétences en didactique des langues, on doit remonter à Chomsky qui a en réaction à la conception behavioriste qui accède à l'apprentissage par le binôme stimulus-réponse. Cette réaction contraire à cette conception behavioriste a permis à Chomsky de créer deux autres notions. Alors, la notion des compétences, qui est axée sur des connaissances que l'individu a de sa propre langue, plus ce qui est inné. Donc là, si vous avez déjà étudié Chomsky, vous allez voir l'importance de cette grammaire innée qui doit être activée au moment de l'expression, au moment de la communication orale ou écrite en langue. Et l'autre concept qui est associé à ceux deux-là, donc les deux notions travaillent ensemble, c'est la notion de performance, en portugais, desempenho. Alors, différent de la compétence, cette capacité est acquise par l'usage sans nécessairement être le miroir de cette compétence développée ou acquise. Donc, le problème plus important en ce qui concerne cette performance est que chez Chomsky, la dimension sociale de la langue, ainsi que les opérations cognitives et les autres langages, tous ces éléments ne sont pas considérés. Après, on va voir que tout cela change. Mais à ce moment-là, ce qui est important, c'était comparer un peu ce qui est de la compétence, donc qui vient avec l'individu de ce qu'il a déjà d'une manière interne à lui-même, plus ce qui est sa performance dans des contextes variés. Alors, c'était en 1960 qu'on voit un peu cette notion se développer un peu plus et considérer deux aspects, donc la capacité à utiliser des savoirs, des connaissances, sa mobilisation et aussi la mise en œuvre de ces savoirs. Donc, Reims disait que cet ensemble des capacités était au bout d'une réalisation, d'une communication, c'était tous les trois ce qu'il appelait maîtrise de la langue. Donc il y a beaucoup plus d'intégration et de prise en compte d'autres éléments qui n'étaient pas ce qui est de la compétence linguistique, grammaire et lexicale et de cette performance activant ce qui était inné, comme on a vu avant. Alors, l'apprenant, à partir de 1965 et 1970, est censé être capable d'acquérir une gamme complète de savoir-faire communicationnel. Ça, c'est très important parce que ça va nous permettre de mieux comprendre ce qui est activé, ce qui est mobilisé. On laisse un peu de côté le mot « activé » pour ne pas faire référence à cette grammaire interne qui est activée, et on passe à utiliser le verbe « mobiliser ». Donc, mobiliser des savoirs et intégrer d'autres connaissances et d'autres savoir-faire communicationnels. Alors, cette citation, elle est très claire. Quand nous considérons les individus comme capables de participer à la vie sociale en tant qu'utilisateurs d'une langue, nous devons en réalité analyser leur aptitude à intégrer l'usage, l'utilisation du langage à d'autres modes de communication. Donc, on pense à la gestualité, à la mimique, à la reformulation, etc. En somme, ce que l'on sait et ce que l'on fait d'une langue tient aussi à la place que celle-ci occupe dans l'ensemble plus vaste des savoirs et des capacités entrant dans les divers modes de communication. Donc, tout cela a évidemment inspiré la discussion sur l'approche communicative, donc la conception de ce que c'est l'approche communicative et la définition des compétences de communication. Alors, dans ce livre manuel de formation pratique pour les professeurs, nous avons cette définition qui s'appuie sur Himes. Alors, la compétence de communication est définie par Himes comme la capacité du locuteur à se servir du système linguistique en fonction du contexte social. Autrement dit, elle concerne quand parler et quand se taire, de quoi parler, à qui, quand ou de quelle manière. Donc, tous les éléments qu'on a vus en classe, qui, quand, où, pourquoi, comment, donc tout cela, ce sont les éléments que dans l'approche communicative, on appelait la mise en contexte. Donc, cette identification de tous ces éléments qui ne peuvent pas être séparés de la manière dont la personne s'exprime. C'est une notion complexe qui est à la base donc de l'approche communicative. Alors, d'autres études dans l'approche communicative ont vu que cette compétence large de communication, elle peut être séparée en compétences autres. Donc, c'est-à-dire, à l'intérieur de la compétence de communication, nous avons la compétence linguistique, la compétence socioculturelle, la compétence pragmatico-discursive textuelle, la compétence référentielle et la compétence stratégique. Alors, si on prend rapidement les caractéristiques de chacune, et vous avez les documents dans notre salle virtuelle que vous pouvez le lire et après poser vos questions par rapport aux définitions, on pourrait dire que la compétence linguistique, c'est la capacité d'utiliser des modèles phonétiques, lexicaux, grammaticaux et textuels qui font partie de la langue. Alors, à chaque fois qu'on dit linguistique, on pense à ces éléments. Quand on dit « qu'est-ce que je vais enseigner ? Qu'est-ce que j'ai comme objectif linguistique de mon cours ?» Alors, je dois identifier quel aspect grammatical je vais travailler, quel type de texte va me permettre de travailler tel ou tel aspect. Si je prends par exemple un texte argumentatif, c'est clair qu'à l'intérieur de ces textes, les articulateurs logiques sont importants. Alors, à partir du texte choisi, je peux élire, choisir les aspects à travailler. Le lexical, c'est la même chose. Si je fais tout un travail en groupe de repérage d'informations sur comment la pandémie elle s'étend dans le monde, alors je vais trouver à l'intérieur des documents oraux ou écrits tout un champ lexical qui correspond à la thématique de la pandémie. Et alors, ce qui est lexical apporte, et tous les mots en relation apportent du sens. Et on peut travailler à partir de là. Ce qui est du socio-culturel. Là, c'est l'appropriation des normes sociales et interactionnelles qui régissent les rapports entre les individus, les institutions. Alors ça, c'est très important. Quand on on passe un document oral, formel ou informel. Alors, on demande aux étudiants d'identifier quel type de registre. Et c'est là, cela peut être accordé aux normes sociales d'une société en particulier. Et là, c'est très important. Elle est liée à la notion d'usage social de la langue et donc à celle de comportement. Ça, c'est important parce que le mot comportement, à un moment de la didactique des langues, il servait à fournir des manières de se comporter dans une société. Aujourd'hui, cette notion, elle est un peu mise à côté et on passe à faire apparaître tous les éléments culturels, socio-culturels de la situation sur laquelle on travaille. Si on prend un film, par exemple, un extrait d'un film, l'objectif, dans un premier moment, c'est cette identification. La scène, elle se passe où? Comment est le rapport entre les personnages? De quoi est-ce qu'ils parlent? Est-ce qu'il y a des mots familiers, des mots plus formels? Et évidemment, si on pense au culturel, on ne peut pas imaginer que les choses sont figées, qu'elles sont là pour toute la vie. Au contraire, on voit l'évolution de la langue, de manière de dire. Et donc tout cela est très important. Alors, en ce qui concerne l'autre, la compétence pragmatico-discursive textuelle, elle permet de produire des unités de communication contextualisées à partir de schémas qui en assurent la cohésion et la cohérence en fonction des paramètres de la situation de communication. Donc, elle est très liée à la compétence socio-culturelle. C'est-à-dire, quand on dit pragmatique, c'est la langue en usage. Le discours, c'est la langue en usage. Et à partir de là, on peut identifier les paramètres d'une situation de communication. L'autre, la compétence référentielle, permet, à partir d'une information connue, d'acquérir de nouvelles informations. C'est l'encyclopédie du locuteur. Donc, on peut parler aussi de domaines d'expérience, activer, de mobiliser, pardon, les domaines d'expérience. On ne va pas, quand on travaille dans le domaine du français sur objectif spécifique, alors c'est clair que l'objectif de l'enseignant, c'est de faire apprendre X ou Y, mais c'est compter aussi sur la participation, sur de l'apprenant, c'est-à-dire un médecin. Et il sait parler de son domaine professionnel d'une manière très pertinente. Alors, mobiliser ses savoirs entre dans cette partie, dans cette idée de compétence référentielle. Et finalement, la compétence stratégique. Elle permet la mise en œuvre de stratégies efficaces de compensation, d'évitement, de reformulation pour atteindre un objectif donné. Elle est liée à la notion de stratégie de communication. Donc à partir de ce détail, de cette liste, disons, qui intègre la compétence de communication, vous pouvez penser vous-même à vos contextes. C'est-à-dire, quelles sont les situations que je propose, les activités que je propose à mes élèves, et comment est-ce que je peux, à partir de mon plan du cours, etc., identifier ces compétences. Là, systématiquement, évidemment, on ne va pas travailler toutes les cinq, mais d'une certaine manière, c'est notre devoir apprendre à les identifier. Alors, la question finale, pour clore un peu cette petite présentation, c'est quelles activités proposer d'après l'approche communicative? Alors, dans les textes que vous avez dans notre salle de Véline Bérard, elle propose quelques-unes. On a parlé beaucoup de simulation et jeux de rôle. Et donc, c'est l'activité la plus utilisée, la plus proposée aux élèves dans l'approche communicative. Mais on peut penser à d'autres. Évidemment, parce que des années 90 jusqu'à aujourd'hui, on a beaucoup plus de matériel à notre accès. Donc là, c'est un peu vous inviter à penser à ces activités et comment est-ce qu'elles révèlent les principes de l'approche communicative. Alors, comme devoir à la maison, à la lumière des lectures indiquées, vous savez que dans la salle, moi, j'essaie de vous donner de la bibliographie et des références au-delà de ce qui est le minimum. Pourquoi? Parce que vous avez l'opportunité de penser à vos propres intérêts. Donc, le livre de Vélinbéra, c'est pas pour tout lire, mais c'est pour avoir cette indication si vous allez parler davantage de l'approche communicative. Parce que c'est le livre qui, en 90, a permis de faire des formations de formateurs, de mieux comprendre l'approche communicative. Alors, dans cet aspect-là, les questions que je vous pose à la lumière des lectures indiquées sont celles-ci. Quel est le rôle de l'enseignant dans cette méthodologie-là? Quel est le rôle de l'apprenant? Comment la grammaire est-elle enseignée? Quelle est la place de l'erreur? Quelles activités et d'évaluation on peut proposer, on propose, et aussi comment faire développer le travail des quatre compétences. Hein? Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça? Et comment est-ce qu'on peut... Ah, on peut penser à une autre qui est très importante. Alors, quel type des documents oraux et écrits choisir? Là, vous allez voir qu'à partir de ces questions, vous pouvez faire une espèce de synthèse de ce que c'est l'approche communicative. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup.